Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
Dominique Tenza.
Et le journal de 7h, c'est avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Et à la une ce matin, prudence sur les routes, bison futé, voie rouge dans le sens des départs, direction le camping. On verra comment les vacanciers s'adaptent en ces temps de coronavirus. Il s'est éteint paisiblement. Hier, un chauffeur de bus de 59 ans est décédé 5 jours après sa violente agression. Le Premier ministre promet des sanctions. Et puis Teddy Riner condamne des tags racistes sur les murs de l'INSEP. Son nom avait été barré et remplacé par le mot singe.
L'heure des vacances a donc sonné, Aude, pour les plus chanceux, avec une journée, attention, classée rouge, dans le sens des départs.
Il va y avoir du monde sur la route d'après Bison Futé. Même chose dans le sens des retours, ce sera orange. Certains d'entre vous, prévoyants, ont préféré partir hier. Alors à quoi vont ressembler ces premières vacances d'été en temps de coronavirus? Comment allier gestes barrières et vie presque normale? Illustration au camping Le Mas à Martigues. Reportage d'Étienne Baudu.
Entrez monsieur, bonjour, bienvenue.
C'est derrière une vitre en plexiglas que les nouveaux arrivants sont accueillis. Les mesures sanitaires sont strictes, mais ces contraintes semblent bien acceptées, observe la responsable Rosalina.
Nous sommes contents de recevoir des clients joués, contents de sortir de leur confinement et surtout contents de pouvoir vivre leurs vacances tranquillement.
Alors la fréquentation est en baisse, moins 20% selon Rosalina, mais les réservations se font aussi au dernier moment. Cette famille allemande arrive de Cologne.
Jusque 3 semaines avant qu'on ait parti, c'était clair, on ne part pas en vacances cette année. Et tout d'un coup, il y avait des possibilités qui ont été données. Alors, on a décidé de le faire, d'essayer.
Bon, en tout cas, vous allez profiter de quoi, là?
De la chaleur, du soleil, de la plage, des cigales, de tout ici.
Et de la piscine aussi, le centre névralgique du camping, avec là encore des mesures de distanciation, 1 mètre entre chaque transat. Et dans l'automa, un des animateurs a lui aussi adapté ses activités, mais toujours dans la bonne humeur.
Allez, pour ceux qui veulent faire l'aquadance, on se met dans la piscine. Allez, on pense s'il vous plaît à bien respecter les distances. Pareil, respectez bien les 1 mètre s'il vous plaît. Julia, reculez un petit peu. Voilà, attention, ça va partir.
La piscine, franchement.
Et YMCA. Reportage d'Étienne Baudu dans un camping de Martigues pour RTL. La fin de l'état d'urgence sanitaire depuis ce matin, sauf pour Mayotte et la Guyane, et avec lui la fin de la trêve hivernale, le retour des jours de carence pour les arrêts maladie et la réouverture des salles de spectacle et des stades de plus de 5000 personnes. Le virus est toujours là. Santé publique France alerte sur une tendance à l'augmentation des cas. Les experts appellent à la vigilance. La France a franchi hier la barre des 30 000 victimes de la Covid-19 avec 25 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. L'éducation nationale anticipe et publie une circulaire pour encadrer la rentrée des classes de septembre. Gestes barrières, lavage des mains et nettoyage des locaux seront de rigueur pour accueillir tous les élèves. Protocole qui peut évidemment évoluer en fonction de la situation sanitaire.
La justice, Aude, punira les auteurs de ce crime abject. La promesse du Premier ministre Jean Castex après la mort d'un chauffeur de bus à Bayonne.
Philippe Monguillot est décédé hier à l'âge de 59 ans, 5 jours après une agression d'une violence extrême, ce sont les mots du parquet. Il a été roué de coups pour avoir simplement voulu contrôler le ticket d'un passager et exiger le port du masque. Ses agresseurs présumés ont été écroués, 2 d'entre eux mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Il était en état de mort cérébrale. Sa femme, Véronique, a choisi de le laisser partir paisiblement.
On gardait un petit espoir quand même, mais je savais très bien qu'il allait partir, quoi. Ils se sont battus pour lui, pour l'aider, mais bon, quand il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de cerveau, hein, c'est pas réparable. Donc on a décidé d'un commun accord d'arrêter le traitement, ça ne sert à rien, de s'acharner, on ne peut pas. On est parti avec mes enfants voir Philippe pour l'embrasser, lui parler, bon, faire comme on faisait tous les jours, on va dire. Hein. Je préfère garder un souvenir de lui où j'ai ma main sur un cœur qui bat que sur un cœur qui éteint, quoi, vous voyez. Donc je l'ai embrassé, j'ai fait pareil, comme j'ai fait tous les jours. On est parti et puis ensuite voilà ils ont commencé leur protocole et le neurologue m'a appelé vers 17h34 à peu près pour me dire voilà qu'il venait de partir, de s'éteindre doucement, paisiblement, son cœur s'est ralenti petit à petit jusqu'à s'éteindre, quoi. C'est mon oxygène qui est parti.
Véronique, l'épouse de Philippe Monguillot, jointe pour RTL par Vincent Serrano. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre sur place ce samedi pour faire un point sur la sécurité de la ville. Il rencontrera ensuite les conducteurs de bus et syndicats des transports publics. Le premier flic de France, conspué par des militantes féministes à Paris, Marseille, Lille ou encore Toulouse. Elle dénonçait hier la nomination de Gérald Darmanin, visée par une plainte pour viol. Voilà ce qu'elle scandait hier soir, place de l'Hôtel de Ville à Paris. Des collectifs qui dénoncent également la nomination d'Éric Dupond-Moretti, vous l'entendez, nouveau garde des Sceaux et ancien avocat de Georges Tron.
Le ministre de la Justice qui a dû raccrocher sa robe noire, mais son cas inquiète toujours les magistrats.
Un avocat en charge de nombreux dossiers, il avait par exemple défendu Patrick Balkany en première instance récemment. Et comme garde des Sceaux, il a droit désormais aux fameuses remontées d'informations sur les affaires en cours. Certaines voix s'élèvent pour lui supprimer ce droit. En tout cas, la problématique pose clairement des questions, Cindy Hubert.
Oui, il y a encore seulement quelques jours, Éric Dupond-Moretti était au cœur d'un certain nombre de dossiers très médiatiques et notamment d'affaires politico-financières. Alors comment éviter le conflit d'intérêts alors qu'il va recevoir et qu'il reçoit déjà chaque jour depuis qu'il est ministre ce qu'on appelle des fiches d'action publique, des sortes de synthèses sur des affaires sensibles. La situation est explosive, souffle une juge. Soit Éric Dupond-Moretti annonce qu'il ne sera plus avocat pénaliste, dit-elle, soit il faut arrêter tout de suite ces transmissions. Une inquiétude que partage Katia Dubreuil, la présidente du syndicat de la magistrature, favorable depuis des années à la suppression de ces remontées d'informations.
Ce n'est pas une mise en cause de l'homme, c'est vraiment une question de situation objective, d'un risque de confusion dans l'esprit du public sur la façon dont ces informations peuvent être potentiellement ensuite utilisées.
Éric Dupond-Moretti a pourtant déjà pris les devants, il ne fait plus partie du barreau, son cabinet d'avocat ne portera plus son nom et la structure de sa société va être dissoute. Mais selon nos informations, le ministère réfléchit également à trier les informations données au ministre en listant par exemple les numéros de procédure dans lesquels il était avocat pour interdire toute remontée sur ces dossiers.
Les explications de Cindy Hubert du service police-justice d'RTL.
RTL, il est 7h07. On marque une petite pause et ensuite, le cas de cette basilique devenue musée, désormais transformée en mosquée, crispation internationale autour de Sainte-Sophie à Istanbul, en Turquie. On en parle dans un instant.
RTL Matin.
RTL Matin.
Dominique Tenza.
La suite du journal avec Aude Vernuccio. Depuis 1934, Sainte-Sophie était un musée. L'ex-basilique va devenir une mosquée.
Une décision prise par les autorités turques qui déplorent clairement le gouvernement français, mais aussi l'UNESCO ou encore la Grèce, qui parle de provocation, je cite, envers le monde civilisé. Sainte-Sophie, symbole de la rencontre entre l'Empire ottoman et l'Europe à Istanbul, célébrera ses premières prières musulmanes à la fin du mois. Mais un rassemblement a déjà eu lieu dès hier soir. Le président turc promet que tous les visiteurs, quelle que soit leur religion, pourront toujours se rendre sur le site emblématique.
Comme toutes les autres mosquées, les portes de Sainte-Sophie resteront ouvertes à tous, turcs et étrangers, musulmans et non-musulmans. Après quelques travaux de préparation, nous pourrons reprendre les prières collectives tous les vendredis. Et la première prière sera le vendredi 24 juillet. Nous entendons les commentaires de la communauté internationale sur cette décision. Mais le choix du statut de Sainte-Sophie est une question qui relève uniquement de la souveraineté nationale de la Turquie.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan. À l'étranger toujours, Washington va bien serrer la vis sur les importations européennes. Les États-Unis vont imposer des droits de douane supplémentaires de 25% sur certains produits français, cosmétiques, sacs à main par exemple. Mais la menace n'est pas encore mise à exécution. La France a 180 jours pour éviter la punition des représailles engagées après l'annonce d'une taxe sur les géants du numérique américains comme Amazon ou Apple.
On en vient, Aude, à cette prise de parole sur RTL. Teddy Riner condamne les tags racistes sur les grilles de l'INSEP.
Le mot « singe » avait été écrit à la place de son nom sur les murs de l'Institut qui forme les sportifs de haut niveau dans le bois de Vincennes. C'était il y a 2 semaines, le double champion olympique de judo, dégoûté par ce type de comportement.
C'est triste qu'on en soit encore là au 21e siècle. Dans le monde du sport, on est encore à l'abri de certaines choses, mais il y a des gens qui le vivent au quotidien. Donc il faut qu'on continue à combattre ces choses-là pour que demain, on soit dans un monde sain où ces choses-là ne doivent plus exister. Ça y est, pour moi, c'est un acte qui ne doit jamais plus arriver, surtout à l'INSEP et dans le monde du sport et dans le monde en général.
Vos parents, vos grands-parents surtout se sont battus pour que des choses comme ça n'arrivent plus.
Bien sûr, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils se sont battus pour nos droits et pour qu'on soit libre, qu'on soit tous des hommes libres. Donc oui, quand je dis on ne doit pas laisser passer ça, on ne doit pas laisser passer ça et ça ne doit plus arriver.
Teddy Riner au micro de Jean-Michel Rascol pour RTL. Et puis un mot de football pour terminer, le Paris Saint-Germain plutôt bien loti après le tirage au sort du tournoi final de la Ligue des Champions. Le PSG affrontera l'Atalanta Bergame en quart de finale à Lisbonne, tournoi qui aura lieu du 12 au 23 août. Pour l'Olympique Lyonnais, c'est plus délicat. Si l'OL se qualifie lors de son 8e de finale, retour face à la Juventus le 7 août, il faudra ensuite affronter au choix le Real Madrid ou Manchester City.
De gros morceaux. Merci beaucoup Aude Vernucci, on se retrouve dans une heure.